Et le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est La prière de Paul. Vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. C'est pourquoi moi aussi, je vous le mets quand même, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Seigneur, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers vous? J'ai un morceau qui me manque là-bas. Qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ et là, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors ce texte, je l'aborderai en trois points. Le premier, s'il veut venir, la motivation de Paul. Le deuxième, l'illumination. Il nous est parlé d'illumination au milieu, on va voir ce que c'est. Et la troisième, la puissance du Père de gloire, puisqu'il nous a parlé de cette puissance à un moment donné. Le premier point, donc, la motivation de Paul. Vous avez tous noté qu'il commence par c'est pourquoi. Voilà une bonne question à se poser avant de prier. Paul se dit, c'est pourquoi? Pourquoi je priais ce matin? Eh bien, Paul fait appel à son intelligence. Eh oui, c'est une chose à laquelle on est peu habitué. On va voir tout au long de ce passage. Tout au long de ce passage, souvent, Paul fait appel à son intelligence. Donc, il est amené à rendre grâce et à prier pour les Éphésiens. Et qu'est-ce que sa réflexion lui amène? Premièrement, il prie à cause de ce qu'il vient d'écrire. Quand on a écrit quelque chose et qu'on dit c'est pourquoi, c'est qu'on se réfère à ce qu'il y avait au-dessus. Et deuxièmement, il se réfère aussi à ce qu'avaient été les croyants d'Éphèse. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Actes, c'est dans Actes 19, quand il est parlé des croyants d'Éphèse, il y a un passage assez intéressant. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. Bon, vous savez si aujourd'hui on calcule ce que ça fait 50 000 pièces d'argent? Ça fait 50 000 journées de travail. Et vous savez ce que ça fait pour une personne, 50 000 journées de travail? 200 ans, 250 ans. Ah! Et vous savez si on compte l'inflation? D'une manière précise, ce que ça fait comme montant en prenant l'échelle la plus basse. Hein? 24 milliards 445 millions 432 000 euros. Et ça, c'est en calculant sur les 250 dernières années. Si on va dans l'autre sens, c'est-à-dire si on se dit, tiens, on part d'aujourd'hui et on va sur... Là, on arrive à des chiffres pour les matheux, 10 puissance 84. Donc, j'ai même pas. Là, je me suis dit, on n'arrivera pas à s'imaginer. Donc, c'est énorme. Les Éphésiens savaient, ils s'en souvenaient certainement de ce qu'ils avaient brûlé. Parce que pour en brûler une telle masse d'argent, ça les avait marqués. Et ce montant-là que vous avez là, c'était le prix de leur spiritualité. Le prix pour s'adresser à des faux dieux, à des esprits qui ne leur apportaient rien de solide. Je ne sais pas si vous connaissez le mécanisme de la sorcellerie ou de l'occultisme ou de tout. C'est je fais des choses sans jamais être sûr d'obtenir, mais pour obtenir quelque chose, et à chaque fois que je suis avancé d'une marche, je dois recommencer. Et finalement, je suis tout le temps en train de marcher sur des sables mouvants qui vont peut-être m'avaler, et en plus, je ne le sais même pas. Par contraste, l'évangile de Jésus-Christ leur annonçait, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, comment le Père les a élus avant la fondation du monde, comment le Fils les a rachetés par son sang. Je vous rappelle que quand dans la Bible on voit par son sang, c'est par sa mort, il fallait que tout le sang ait coulé. Et cela, Jésus l'a fait en s'incarnant en tant qu'homme. Et comment le Saint-Esprit leur applique le salut que Jésus leur avait gagné. Un commentateur a résumé ce processus en disant élection, rédemption, conversion. C'est facile à retenir, hein? Mais en quelque sorte, voilà. Autrefois, les Éphésiens avaient affaire à des esprits fuyants, rebelles à leur Créateur. Aujourd'hui, ils connaissent le seul Dieu qui s'est donné pour rencontrer la créature faite à son image. C'est la super bonne nouvelle que nous annonçons depuis quelques semaines et que nous annonçons toutes les semaines en prenant la scène. Et donc, voici que tout d'un coup, Paul a une deuxième raison qui le pousse à la prière, à l'action de grâce. Ce sont la foi au Seigneur Jésus et l'amour pour tous les saints que manifestent les Éphésiens. Jésus avait prévenu, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Paul était en ce moment-là en prison, mais il y avait des gens qui circulaient, qui venaient l'informer. Et qu'est-ce qu'ils sont, ils sont arrivés? Les Éphésiens, ils s'aiment. Ils sont. Ah! Et ça marquait les gens de leur temps. Hein? Donc, c'est à cause de la grâce manifestée en Jésus-Christ et appliquée dans la vie des Éphésiens par le Saint-Esprit que l'apôtre rend grâce et prie. Cette prière demande premièrement l'illumination des Éphésiens. Et on va voir ce qu'est cette illumination. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers vous, envers nous, excusez-moi, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Si nous prenons le texte tel qu'il est, avec le sens des mots, tel que nous les comprenons au XXIe siècle, on est sûr d'aller droit dans le mur. Je prends le mot cœur. Le mot cœur, ça vous rappelle quoi pour vous, le mot cœur? Les émotions. Je te donne mon cœur. Oh, mon cœur est pour toi, pour toute ma vie, ma chérie. Voilà, on est en plein dans les émotions. pour un grec ou un hébreu du premier siècle, ça tombe à plat. Ça, c'est les tripes pour un hébreu ou un grec du premier siècle. Pour lui, le cœur, alors j'ai trouvé ici, John MacArthur nous écrit, dans la plupart des cultures d'aujourd'hui, on considère le cœur comme le siège des émotions et des sentiments. Mais dans la plupart des cultures antiques, hébraïques, grecques et autres, on considère le cœur comme le centre de connaissance, de compréhension, de réflexion et de sagesse. C'est de cette façon que le Nouveau Testament utilise le terme. Le cœur est le siège de la pensée et de la volonté, et on peut lui enseigner ce que le cerveau ne pourrait apprendre. Les émotions et les sentiments étaient plutôt reliés aux intestins, aux entrailles. Bon. Donc la prochaine fois que vous mangerez des tripes... Donc, Paul, en plus de ça, il parle des yeux de notre cœur. Donc, on voit que là, ce qui engage la volonté, l'intelligence, ce qui est de la sagesse, peut être représenté avec des yeux. Pour moi, ça ressemble furieusement à une vision du monde. Quelle était la vision du monde des Éphésiens avant de connaître Christ ? Globalement, on va magouiller avec les faux dieux ou avec des esprits, ou on va aller voir, il y avait une pythonisse à Éphèse, on allait la consulter, elle donnait des oracles. Bon, enfin, ça marchait super bien, hein. C'est à peu près sur ces bases-là, vous regardez dans Actes, à la fin du livre des Actes, c'est à peu près sur ces fondements que le centurion a dit « Non, non, Paul, on va prendre la mer. » Globalement, le patron du bateau a dit ça, sûrement il a fait un petit sacrifice à Neptune, donc on va prendre la mer et on a fait naufrage. Hein ? Eh bien, c'était ça ce que vivaient les Éphésiens. Ils avaient des pratiques qui ne leur apportaient rien et ils avaient une vision du monde qui était une vision qu'ils n'émenaient nulle part. Ils magouillaient avec des esprits mauvais. Pour vous donner une idée, les techniques occultes qu'ils employaient, ça ressemble aux petites lumières que j'ai sur mon vélo. Vous savez comment aujourd'hui il y a des petites lumières comme ça qui clignotent devant et derrière. C'est super pour se faire voir. J'en ai même maintenant une derrière mon casque. Alors les gens voient, ils vous voient. Maintenant, une nuit de nouvelle lune pour rentrer chez vous, ça ne vous sert strictement à rien. Vous ne voyez pas avec ces lumières. L'occultisme que vivaient les Éphésiens, ou le paganisme qui vivait, c'était la même chose. C'était, j'ai des lumières qui me servent à rien quand je suis dans la nuit. Maintenant, on va voir ce qui concerne l'illumination. Alors, l'illumination... Wayne Grudem, excusez-moi, cite Robert Raymond définit l'illumination comme l'œuvre du Saint-Esprit qui permet généralement aux chrétiens de comprendre, de se rappeler, et d'appliquer les écritures qu'ils ont étudiées. Et Jean Calvin a aussi défini la photo est d'époque. Qu'il soit bien clair que seul celui qui est enseigné par le Saint-Esprit peut s'appuyer fermement sur l'Écriture. Étant donc illuminé par sa puissance, nous ne croyons pas selon notre propre jugement ou selon celui des autres que l'Écriture est de Dieu. On voit donc que l'illumination encore est quelque chose qui touche à notre intelligence. On n'a pas quelque chose, un ange qui vient, c'est quand même relativement rare, même dans la Bible. Hein ? Les deux auteurs que je viens de citer connaissaient, ils avaient toutes les Écritures. Hein? Ce n'était pas le cas des Éphésiens. Mais Paul leur indique bien qu'ils doivent appliquer leur intelligence, il emploie le verbe « savoir », à discerner les bienfaits de Dieu. C'est quelque chose que nous devons faire aussi. Désormais, si je reprends l'exemple que je vous donnais des petites loupiottes que j'ai sur mon vélo, désormais, je sors à vélo, toujours, mais je suis en pleine lumière, tout le monde me voit, et en plus, la lumière, elle est aussi le chemin, parce que Jésus a dit qu'il était la lumière du monde, d'une part, et puis qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Vous imaginez? Je dirais, regardez comment devant les Éphésiens, leur vision du monde s'est élargie. Ils ont connu Dieu. C'est le même Dieu que nous connaissons et quelquefois, est-ce que nous nous rendons compte comment Dieu élargit notre vision du monde ? Alors l'illumination, qu'est-ce qu'elle concerne? Parce qu'on doit être illuminé. Bon, lumière, mais sur quoi? Lumière sur l'espérance, sur l'héritage qui est le nôtre, sur la puissance du Père de gloire, dont je vous ai cité comme un point fort et que nous allons voir maintenant. Avant l'annonce de l'Évangile, donc, pour résumer, les Éphésiens ne connaissaient que la puissance des ténèbres qu'ils pensaient utiliser à leur bénéfice. Ils n'avaient pas d'héritage, pas d'espérance. Tout cela leur est donné par la puissance du Père de gloire. Et premièrement, nous allons voir la puissance telle qu'elle s'est développée en Christ, parce que tout ce que la puissance de Dieu nous a donné est d'abord passé à travers Christ. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. J'aimerais vous poser une question, là, avant de continuer de lire le texte. Le tombeau au matin de Pâques, celui dont on chante que l'ange est venu rouler la pierre, il était comment? Il y a quelqu'un qui a répondu là. Il était vide. Non, mais ça vous semble pas impressionnant? Moi, ça m'a toujours impressionné. À quoi ça sert de rouler la pierre d'un tombeau vide? Christ était sorti. Bon, ben voilà. En plus, on fait descendre un ange, ça fait peur à Marie. Il fallait qu'au fond des ténèbres de la mort, la lumière du soleil devant du jour de Pâques vienne jusqu'au fond, éclairée. Je continue. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté. Autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La vie de Jésus a été une vie d'obéissance. Il a obéi à la loi de Moïse pendant toute sa vie. Mais la croix ne faisait pas partie de la loi de Moïse. Il a obéi à l'ordre du Père de s'offrir à la croix comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous trouverez ça, quelquefois on parle d'obéissance active et d'obéissance passive pour Christ. C'est ces deux choses-là, vous voyez, c'est très simple. Alors, il est mort. Quand il a eu obéi à la loi d'abord et puis à la croix, il est mort, point. À partir de ce moment-là, Jésus lui-même n'agit plus. Nous disons Jésus est ressuscité, mais comment il l'est? On va voir maintenant, ce texte nous en parle. Alors le Père, d'une victime pour le péché, il a fait un être, un homme, le premier-né d'entre les morts, qui vit éternellement. Le premier qui revêt un corps de gloire, c'est Jésus-Christ. Il lui donne une vie de perfection. Jésus se fatiguait. Jésus, il avait tous les besoins que nous avons. Mais là, il est entré dans une vie de perfection. La mort pouvait l'atteindre, la mort ne peut plus l'atteindre. Et je vous ferai remarquer une chose. Aucune victime pour le péché. Les boucs, les agneaux, les bœufs. Non, il n'y avait pas de bœufs, c'était des taureaux. Des pigeons, des vaches rousses. Aucune victime pour le péché n'est revenue à la vie. Une seule victime pour le péché est revenue à la vie. Et il nous est dit ici que c'est par la puissance du Père de gloire, du Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Dieu nous dit, le sang de Jésus est suffisant. Jésus meurt à la croix. Le sang est suffisant. Mais si ce sang, il était suffisant pour le Père, le voile du temple s'est déchiré, la terre a tremblé, des morts ont ressuscité, tout ça c'est très bien, bon. Mais Dieu a agi encore plus loin parce qu'il y en avait, il y avait la nécessité de le manifester que ce sacrifice était suffisant. Christ, notre Pâque, a été immolé et il a été manifesté que cette seule victime était nécessaire et suffisante par sa résurrection. Et c'est Dieu, le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il est dit dans ce texte, qui le ressuscite. Deuxième chose, la puissance est manifestée à travers Christ par la place que lui donne le Père. Il occupe une place sans pareille dans les lieux célestes, déjà une place d'honneur et de puissance à la droite du Père. Alors, pour nous, ça ne veut rien dire d'être à la droite. Bon, quelquefois, la personne la mieux, on la met à la droite de la maîtresse de maison si on se rappelle les règles. Mais non. Là, à l'époque, si on était assis à la droite de l'empereur, c'est qu'on était une personne de grande qualité, avec beaucoup de pouvoir. C'était pas n'importe qui était assis à la droite de l'empereur. Donc là, la plus haute place qui puisse exister, elle est donnée à Jésus. Mais aussi une place de pouvoir. C'est pourquoi je vous ai mis ce que vous voyez derrière. Sous ses pieds, il a les autorités, les puissances, les démons. Alors, c'est une image. C'est pas la réalité de ce que... Mais on voit bien, il est au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est bizarre, il parle de deux siècles. C'est quoi ce siècle présent et ce siècle à venir? Le siècle présent, c'est assez simple. On est en plein dedans. Hein? Si vous avez écouté ce matin les informations, tout se passe mal. Le salaire du péché, c'est la mort. On le voit tous les jours aux informations. Et là, ce que on voit, c'est qu'on est dans le siècle présent qui est marqué par le péché. Depuis le péché d'Adam, nous sommes dans le siècle présent. Et le siècle à venir, ça, c'est notre siècle à nous, pourvu que nous croyons en Christ. Pourvu que nous croyons que c'est bien lui qui est venu nous racheter de nos péchés, nous purifier par sa mort. Et plus fort encore, il nous a purifiés, et là, nous en avons la preuve, il est ressuscité. Donc, Jésus a tout pouvoir dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Aujourd'hui, il règne, même si son règne n'est pas parfaitement manifesté, il règne. Donc, pour ma part, plus j'avance, plus je me dis, il gère. Il gère. Vous devriez faire aussi, il gère. Vous allez voir, vous allez beaucoup mieux après. Enfin, il est le chef suprême de l'Église qui est son corps. Ce matin, j'étais particulièrement touché par la Sainte Cène parce qu'en fait, ce que je vais vous dire là, j'ai revu la Sainte Cène d'une autre manière. Nous communions au corps du Christ, c'est-à-dire nous communions à nous-mêmes, à nous tous. Voilà ce qu'écrit John MacArthur dans son commentaire sur cet épître. Le Christ incomparable est incomplet tant que l'Église, qui est son corps, n'est pas complète. Jésus-Christ remplit tout en tous, donnant sa plénitude aux croyants. Mais selon la sagesse et la grâce de Dieu, les croyants qui forment l'Église sont aussi sa plénitude. Calvin a dit, c'est au plus grand honneur de l'Église que jusqu'à ce qu'il soit uni à nous, le Fils de Dieu se considère dans une certaine mesure incomplet. Quelle consolation c'est pour nous que d'apprendre que tant que nous ne serons pas en sa présence, il ne sera pas complet, ni ne voudra se considérer complet. Le Père a donné un peuple d'élus à son Fils, bien-aimé. Le Fils a racheté ce peuple par son sang, sa mort. Mais tant que le dernier élu n'est pas entré, il manque quelque chose à Christ et au royaume. Le corps est une image extraordinaire de l'amour et de la souveraineté de Dieu pour l'Église. Nous communions toutes les semaines à son corps. Il y a des églises, pour des raisons X ou Y, c'est tous les mois ou tous les ans, vous vous rendez compte, mais nous, nous communions. Et nous devons cultiver cette communion parce que, comme nous le voyons, nous recevons la révélation qui touche notre intelligence. Et c'est assez difficile de cultiver des bons sentiments, mais cultiver notre... agir avec notre volonté est possible. Cependant, la puissance du Père de gloire est aussi manifestée dans notre foi. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force? Il est même le roi de notre foi. Il y a des fois, quand on s'approche du texte, on est surpris. Alors, j'en ai trouvé deux preuves dans la Bible. Comment Dieu arrive à susciter la foi. Mais alors, ces deux évangélisations archi nulles. La première, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il n'y a rien de pire, je ne sais pas si vous imaginez ça, Jonas qui se promène dans les rues de Ninive et qui leur annonce la destruction. À la parole de Jonas, nous dit la Bible, le peuple de Ninive s'est repenti. Une génération qui a échappé au jugement de Dieu. Il y a une autre évangélisation qui est, mais alors, jamais on n'aurait pensé. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui a été fouetté, sur qui on a craché, qui est crucifié avec deux terroristes de son époque, qui l'insulte, et puis tout d'un coup, il y en a un qui réagit, et c'est comme ça qu'il faut lire le fait que les deux l'insultaient, puis que dans Luc, il nous est dit que tout d'un coup, il y en a un qui lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Et là, celui-là, pour réussir à dire ça à Jésus, il a dû prendre appui sur ses pieds, souffrir une douleur atroce dans les jambes pour reprendre sa respiration et lui dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. » Et là, Jésus lui dit « Ce soir, tu seras avec moi en paradis. » Voilà comment la puissance de Dieu, du Père de gloire, arrive à susciter la foi dans des choses. D'ailleurs, si vous considérez comment vous, vous êtes arrivé à la foi. Arrivé un moment, j'ai essayé peut-être 30 ou 40 fois de lire la Bible, impossible. Le jour où je me suis converti, j'ai fait de Genèse à Ésaïe en quelques mois, 2-3 mois. Puis là, j'ai repris mon souffle parce que ça faisait beaucoup à lire. Finalement, on peut en conclure que notre foi n'arrive, n'existe et ne tient que par la puissance de Dieu. Seule sa souveraineté nous garde pour la vie éternelle. Enfin, encore un point, sa puissance nous montre l'espérance. L'espérance que nous avons est manifestée par la résurrection et l'ascension de Jésus dans la gloire. Je vous avais cité Angie Velasquez Thornton il y a 2 ans, je crois, pour l'ascension, qui disait « Sans l'ascension, pas de salut ». Il fallait que Jésus soit amené après sa résurrection jusqu'à la place la plus élevée parce que il la mérite. Et c'est là que se trouve et se situe toute notre espérance. Nous disons un peu « Ah, s'il était avec nous, ça serait tellement plus simple, oui. » Bon, Pierre l'a renié, Judas l'a trahi. Je ne crois pas que si Jésus était avec nous, ça serait plus simple. Mais là, nous savons, comme l'a écrit Calvin, nous avons dans notre cœur ce témoignage du Saint-Esprit qui fait que nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il est assis à la droite du Père et qu'il trône. Comme vous le voyez là, donc notre espérance, elle est là. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et c'est ce que nous confirme Paul dans 1 Corinthiens. Christ est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Alors il y a une chose qui est super intéressante, je me rappelle, on parle que des hommes comme témoins, parce qu'à l'époque, une femme n'avait pas le droit de témoigner, un enfant ne pouvait pas témoigner. Mais S'il a été vu par 500 frères, il y avait sûrement au moins 500 sœurs. Et comme avec les enfants, ils étaient 3000. En fait, il y a une foule de gens qui ont été témoins. La seule chose qui n'a jamais été contestée avant le 19e siècle, c'est la résurrection de Jésus. Les responsables juifs, ils n'ont rien dit. Il n'est pas mort. Oui, montrez-nous le cadavre. Embêtant, hein. On n'a pas de cadavre. Les Romains, bon, ça ne les intéressait pas, c'était l'affaire des Juifs. Mais on n'a aucune preuve. On a la seule preuve qu'on ait, c'est un tombeau vide. Il est ressuscité. Donc, la manière dont nous avons cette espérance dans notre cœur, c'est qu'en fait, la résurrection de Christ, sa glorieuse ascension auprès du Père, c'est là notre assurance que le sacrifice qui a été fait était le seul sacrifice que le Père considérait comme valable pour que notre péché soit pardonné. Le problème du péché a complètement été réglé par la mort de Christ. Et nous en sommes sûrs. Parce que Dieu ne l'a pas abandonné dans la mort comme toutes les autres victimes. Il l'a ressuscité. Enfin, nous en arrivons à l'héritage. D'une part, parce que l'Église est le corps de Christ, avec tout ce que cela implique dans la communion avec lui. Quand nous partageons le pain, nous sommes en communion les uns avec les autres et avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux, non? Même si vous ne ressentez rien, vous pouvez vous le dire, c'est vrai. Et d'autre part, puisque nous sommes adoptés par le Père, nous serons co-héritiers de Christ, nous régnerons avec lui. Et Jean Calvin a encore parlé à ce sujet. Le royaume des cieux n'est pas un salaire de serviteur, mais un héritage d'enfants, dont seuls jouiront ceux que Dieu a adoptés. Et ils n'en jouiront pour aucune autre raison que cette adoption. Alors ce texte, on pourrait y passer 2 heures dessus, on aurait vu 10% peut-être, peut-être moins. Mais là, j'arrive à tenir l'horaire, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, nous devons plonger nos regards dans sa parole. Puisque nous n'en sommes qu'à 10%, plongeons nos regards dans sa parole et nous trouverons ce en quoi Dieu va nous illuminer, sans que cela fasse de nous des illuminés d'ailleurs. La Bible s'étudie un dictionnaire à la main. Il y a un véritable travail intellectuel à faire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, parce que nous pouvons aussi prier la parole. Et vous allez voir, ça va être ma surprise de la fin. Nous pouvons prier la parole. Vous savez que quand on prie la parole, on ne se trompe jamais et on est sûr d'être toujours exaucé. En plus, ça nous édifie et ça transforme notre intelligence. Puis enfin, ce que nous apprend ce texte, c'est que nous devons prier les uns pour les autres. Il y a besoin d'un effort humain pour comprendre. Paul faisait ça très bien, regardez toutes les épîtres, il prie. Il priait pour les autres, il discernait par son intelligence quels étaient les besoins et il priait pour les autres. C'est pourquoi, pour conclure, je vous propose que nous reprenions le texte d'Éphésiens 1, à partir de « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » et que ce matin, nous prions ce texte Ça sera la conclusion, il me semble, la meilleure. Alors, voilà. On peut peut-être se lever pour, en même temps. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Amen.